Tout d'abord, un texte bien connu au début de l'évangile de Jean, au premier chapitre, à partir du premier verset. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, il vint comme témoin, pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Cette lumière était la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tout homme. Et puis un peu plus loin dans le même évangile, au chapitre 8, juste le verset 12, Jésus parla de nouveau en public et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Je ferai encore, pardonnez-moi, une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, dans le discours que Jésus adresse à ses disciples, au verset 14, il dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et enfin, je lirai deux versets dans le psaume 119. J'aurais voulu le lire en entier, mais ça aurait pris un peu trop de temps. Je lis le verset 105, verset bien connu. Ta parole est comme une lampe qui guide mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Et au verset 130, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Et les gens sans détour y trouvent le discernement. La lumière. Je n'avais pas prévenu quel était le sujet de mon prédication, mais je vois que nous avons chanté « Tu es lumière ». Le Saint-Esprit fait bien les choses. La lumière. Voilà pour nous une réalité de tous les jours, à tel point qu'on y réfléchit peu. Si on en manque, il y a toujours un interrupteur à portée de la main. La lumière, comme beaucoup de concepts, se définit au moins en partie par son contraire, l'obscurité, les ténèbres. Dans nos villes occidentales, on a rarement l'expérience de l'obscurité totale. Il y a toujours ici ou là une lueur, ou un interrupteur à portée de la main, même s'il faut le chercher un peu en tâtonnant. Mais imaginez-vous, en rase campagne, par une nuit sans lune, sous un ciel couvert de nuages. Sans lumière, il n'y a pas grand-chose à faire. Et le plus sage est probablement d'attendre patiemment, sur place, le lever du jour. Sur le plan spirituel, la Bible compare le péché aux ténèbres. Et là aussi, sans un secours extérieur, sans une lumière, notre situation est totalement désespérée. Mais heureusement, il y a la lumière. Jésus, comme nous l'avons lu dans l'évangile de Jean, nous est présenté comme étant la parole de Dieu qui est lumière, devenu être humain, et il se présente lui-même aussi comme étant la lumière du monde. Jésus est donc cette parole éclairante dont nous avons besoin. Il ne parle pas pour ne rien dire, comme bien souvent nous le faisons. Toutes ces paroles sont pesées. Elles ont leur importance et leur pertinence. Jésus ne parle pas par pédanterie, pour montrer sa supériorité. ces paroles se veulent toujours compréhensibles. Certes, elles ne se comprennent pas toujours du premier coup, elles font réfléchir. Toutefois, contrairement à celles de bien des savants, et les théologiens sont parfois des savants sur ce point, elles ne visent pas à révéler l'ignorance de l'interlocuteur, mais au contraire à le conduire, à le faire réfléchir, et donc à le faire progresser. Avec Jésus, ce n'est pas non plus la langue de bois. Il ne parle pas comme bien des politiciens pour dire le contraire de ce qu'il dit, pour rouler son interlocuteur dans la farine, comme on dit familièrement. Ses paroles sont vraies, pures, droites. Elles sont lumière. Et tout ceci, les auditeurs de Jésus eux-mêmes l'ont bien compris et l'ont résumé en disant « Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. » « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de vie. » Voilà tout le but que Jésus assigne à son enseignement. Cet enseignement se fait à la fois par des paroles et par des actes. Chez Jésus, les uns ne vont pas sans les autres. Les paroles et les actes sont toujours en parfaite harmonie. Ainsi, par son enseignement, Jésus révèle, c'est-à-dire met en lumière, qui est le Père, qui il est lui-même et qui nous sommes, nous les humains. Le Père nous aime. Dieu est amour. Jésus nous le redit et le dit, sa vie le démontre. Jésus manifeste cet amour du Père, le Père qui va jusqu'au sacrifice suprême de son propre Fils. Jésus nous aime. Il donne sa vie pour nous. Personne ne la lui ôte, c'est lui-même qui la donne. Et tout son enseignement vise à nous transmettre cette vie, à faire en sorte que nous aussi, nous vivions comme des enfants de Dieu, dignes de ce nom. Et nous, les humains, nous sommes dans les ténèbres, à tel point que nous ne savons même plus que nous y sommes parfois. Bien de mes amis Naudebas n'ont jamais vu la neige. Ils connaissent la pluie, ils connaissent même la grêle, mais la neige, ils ne l'ont jamais vue. Et ils ont beaucoup de peine à imaginer ce que ça peut être. On a beau montrer des photos, essayer d'expliquer. Non, tant qu'on ne l'a pas vue, on ne sait pas ce que c'est vraiment. Ça ne fait pas partie de l'expérience. En tant qu'humain, j'ai l'impression que nous sommes un peu comme cela par rapport à la lumière dont parle Jésus. Ça ne fait pas partie vraiment de notre expérience d'humain. Et nous avons beaucoup de peine à imaginer ce que c'est que de vivre continuellement dans la lumière de la vie. Ce que c'est que d'avoir la vie que Dieu veut nous donner. Alors pour nous aujourd'hui, qui est Jésus? Le premier révolutionnaire? Un bel exemple à suivre? Ou bien le Christ, le Fils de Dieu, venu pour me sauver, illuminer ma vie en me donnant sa vie? Et qu'est-ce que je fais de son enseignement? Parce que, chose étonnante, si je suis l'enseignement de Jésus, je suis appelé, moi aussi, à devenir lumière du monde. Comme Jésus lui-même le dit à ses disciples. L'Église n'est pas faite avant tout pour être un club de personnes partageant les mêmes opinions, ou les mêmes croyances, ou défendant les mêmes valeurs. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas essentiellement ça. Elle est faite pour être le rassemblement d'un maximum de lumière du monde. Rien de moins. Et ainsi témoigner au monde la présence lumineuse de notre Dieu. Elle est faite pour être vue comme cette ville située sur une montagne, bien visible de loin, comme cette lampe allumée dans une pièce est mise suffisamment haut pour éclairer tout jusqu'au moindre recoin. Votre lumière doit ainsi briller devant tous les hommes, nous dit Jésus. Mais il a soin d'ajouter, afin qu'ils voient le bien que vous faites, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Notre vie de disciple, comme celle de Jésus notre Maître, doit être caractérisée par le bien que nous faisons. Ne nous lassons pas de faire le bien, disait Paul aux Thessaloniciens. C'est-à-dire faisons-le, sans nous décourager, sans attendre immédiatement une reconnaissance aléatoire. On risque plutôt, en effet, comme le Maître, la persécution. Mais cela ne doit pas nous décourager, ni encore moins nous détourner de cette voie. En effet, de même que Jésus, dans sa vie et dans son enseignement, n'avait pas pour but de se glorifier lui-même, de même notre vie de fidèle disciple doit permettre à ceux qui nous observent de rendre gloire à Dieu, notre Père. Nous sommes donc lumière dans ce monde. Mais comment ? Essentiellement en étant témoin de Christ, la lumière. Et comment être témoin de Christ ? Essentiellement en apportant sa parole au monde. La lumière que nous devons porter, en effet, contrairement à Jésus, ne vient pas de nous-mêmes, mais elle est le reflet de cette véritable lumière qu'il est. Si on voulait actualiser l'image de la lampe, nous sommes l'ampoule, pas le courant électrique, qui donne la lumière. Ce qu'on demande d'une ampoule, c'est de bien réagir au courant électrique qui la traverse. De même, ce que Dieu attend de ses enfants, c'est qu'il reflète bien sa gloire et qu'ainsi d'autres personnes puissent être amenées au salut qu'il offre généreusement à tous. Cette mission, il la confie à chacun, à vous comme à moi. Ce n'est pas une mission réservée à certains, à des pasteurs, des missionnaires, des conseillers, des anciens, que sais-je encore. Elle est la mission de tous. Plus que cela même, cette mission ne nous est pas confiée à certaines périodes, à des occasions spéciales, des réunions d'évangélisation ou le dimanche, ni même quelques instants le matin ou le soir quand nous faisons notre méditation personnelle. Non, cette mission, elle nous est confiée à chaque instant de chaque jour. Là où Dieu permet que nous soyons, nous devons être cette lumière. Et si nous sommes nourris de la lumière de sa parole, alors notre vie ne pourra que rayonner pour sa gloire de cette lumière. Comme le dit Paul aux Philippiens, faites tout sans vous plaindre et sans discuter, ainsi vous serez innocents et on n'aura rien à vous reprocher. Vous serez des enfants de Dieu sans défaut, au milieu de gens malhonnêtes et mauvais. Parmi ces gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde, parce que vous apportez la parole de vie. Et nous voici ramenés à la parole. Jésus, lumière, cela m'amène à la Bible, qui me rapporte certaines de ses paroles, certains de ses actes. Comment puis-je suivre Jésus autrement qu'en lisant, en méditant et en mettant en pratique cette parole qu'il nous a laissée ? C'est par sa parole qu'il veut me parler, si je veux bien l'écouter. Et c'est son esprit qui va me guider, si je le cherche vraiment. Nous sommes aussi lumière, et nous voici de nouveau ramenés à la Bible. Nous n'avons pas à porter des paroles de notre cru, mais à transmettre fidèlement sa parole, celle qu'il nous a révélée dans sa Bible. Cette parole doit imprégner nos vies pour pouvoir rayonner de nous. La parole de Dieu, en effet, est lumière, comme le texte bien connu que j'ai relu dans le psaume 119 nous le rappelle. Une lampe qui guide mes pas, une lumière qui éclaire mon chemin. L'image se rapporte bien à la situation que j'évoquais tout au début. Si l'on veut marcher dans la nuit noire, il est fortement recommandé de se munir d'une bonne lampe. Cette lampe aura deux fonctions essentielles que le texte du psaume 119 nous rappelle. D'une part, elle éclaire mes pas, c'est-à-dire qu'elle me permet de voir l'état du chemin à mes pieds. S'il y a des bosses, des creux, s'il y a des embûches, des pierres, des branches, si le chemin se rétrécit ou non, s'il monte ou s'il descend, s'il y a des obstacles à franchir, un pont, un gué, s'il y a des dangers d'un autre ordre, un serpent ou un scorpion en sortie nocturne. D'autre part, elle éclaire mon chemin, c'est-à-dire qu'elle me permet de savoir où est le chemin, de ne pas m'en égarer. Tous ceux qui ont fait des randonnées de nuit connaissent bien ces deux utilités d'une bonne lampe de poche. Et il n'est pas très difficile d'en tirer des applications à propos de la parole de Dieu. Cette parole va me permettre de me diriger, de voir où est le chemin. Et elle va aussi me révéler les dangers du chemin, me permettre d'agir en conséquence. Oh, bien entendu, je ne vais pas trouver tous les détails. Je ne vais pas trouver un verset qui me dit que je dois prêcher le dimanche 6 avril 2014 à l'église internationale de Genève. Mais la lumière, en fait, elle est d'une certaine manière passive. Mais pourtant, elle me dit bien où est le chemin. Reprenons l'image de notre lampe de poche. Pour qu'elle soit utile, il faut quelques conditions. Il faut tout d'abord qu'elle soit en état de marche. En ce qui concerne la Bible, je comparerai cela à une traduction compréhensible pour le lecteur. Si on a une lampe de poche, il ne sert à rien d'avoir une bonne mèche. Et si on a une lampe à pétrole, il ne sert à rien d'avoir une bonne ampoule. Avoir une Bible dans une langue étrangère que l'on ne comprend pas, c'est un petit peu comme avoir une ampoule pour une lampe à pétrole ou une mèche pour une torche. Ça ne marche pas. Ce danger ne vous guette probablement pas ici, mais il est bien réel pour une bonne partie de la population de notre planète. Pour que la lampe soit utile, il faut aussi bien entendu qu'elle soit allumée. Une lampe, même en état de marche, qui est éteinte, ne guidera jamais personne. La parole de Dieu, la Bible, ne nous servira jamais à rien si nous ne l'ouvrons pas et si nous ne la lisons pas. C'est peut-être évident, mais il y a parfois des évidences qu'il faut bien se rappeler. Ensuite, avoir une lampe allumée ne sert à rien si on la masque. On ne l'allume pas pour la mettre sous un seau, nous rappelle le texte de l'Évangile. Là aussi, la Bible ne nous servira à rien si nous ne la méditons pas, si nous ne nous mettons pas nous-mêmes à sa lumière, si nous ne nous laissons pas éclairer nous-mêmes d'abord par elle. Enfin, rien ne sert d'avoir une lampe allumée, de voir le chemin et de ne pas s'y engager. Ou bien de voir le danger ou l'obstacle et de ne pas l'éviter. De même, après la lecture et la méditation de la parole, il faut l'action. Faire ce qu'elle ordonne et ne pas faire ce qu'elle défend. Alors, quelle est la place qu'occupe la Bible dans nos vies? Est-ce un livre de notre bibliothèque? Une lampe éteinte? Est-ce un livre dont on lit un court passage en vitesse, sans plus jamais s'en souvenir tout au long de la journée? Une lampe sous un seau? Est-ce le livre, mon livre de chevet, celui que je médite tout au long de la journée, dans lequel je puise mes forces, auquel je conforme ma vie? Si on ne consulte la Bible que quand on a un gros problème, on risque fort de ne pas trouver la solution. La Bible n'est pas un distributeur automatique de recettes magiques. Elle se présente comme la parole de vie. Et c'est dans une fréquentation régulière et assidue qu'on y trouvera la lumière nécessaire, le réconfort dont on a besoin, le message d'espérance qui nous redonne confiance. Alors, nous ici, que faisons-nous de cette lumière? Est-ce que nous la laissons éclairer notre vie? Est-ce que nous nous soumettons à sa luminosité? Dans notre monde, on a de moins en moins de repères. On avance à tâtons, au gré des modes diffusées par les médias, au gré des avis de soi-disant spécialistes. On devient flottant et entraîné à tout vent de doctrine. On se conforme aux sentiments passagers, au gré des sondages, ce qui revient à conformer sa vie à celle de la majorité, c'est-à-dire être de parfaits moutons qui ne pensent plus rien. La parole de Dieu, elle, nous donne des repères sûrs. Elle nous éclaire. Elle nous montre la route. Elle dirige nos pas. Remettons-la donc à sa place dans nos vies. Allumons la lampe et laissons-nous éclairer par elle pour que nous puissions refléter sa lueur. Cette révélation écrite de Dieu, en effet, me parle de sa révélation par excellence. Dieu le Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour que je puisse devenir moi aussi, enfant de ce même Père, lumière du monde, appelé à refléter sa lumière de vie. Briller parce que nous apportons la parole de vie. Voilà notre mission. Que Dieu nous aide à la bien remplir pour sa gloire. Amen.